à tous et bienvenue, comme le temps passe, pour le deuxième épisode déjà du podcast du service des sports de la République des Pyrénées-Équerres. On se dit des choses, c'est en version originale, et on va commencer par se dire bonjour, car ça aussi c'est original. Vincent Martinelli pour vous servir. À côté de moi, droit d'aînesse oblige, le sémillant Jean Forêt.
Bonjour les amis.
Et juste à sa droite, il est masqué, mais il est pimpant, Grégory de Thor.
Bonjour à tous et surtout roi Jean.
Et enfin, pour compléter ce tableau royal, la Alison Pinot du service des sports, j'ai nommé Anne Pouchant qui nous rejoint.
Bonjour le Béarn et bonjour la Soule.
Il ne faut pas l'oublier, effectivement, nous y reviendrons dans un prochain épisode. On va commencer par vous d'ailleurs, Anne, parce que honneur aux dames déjà, nous sommes des garçons polis, et aussi parce que vous êtes les premiers à jouer, je dis vous, la confrérie de la balle qui colle, le handball. Demain soir, Bière retrouve son Sporting d'Est contre Sarrebourg. Au-delà de la fiche touristique, un gros enjeu de résultat, Sarrebourg est mal en point, Bière doit absolument gagner, évidemment.
Exactement. Alors plus précisément, Sarrebourg est lanterne rouge et Bière malheureusement se retrouve aujourd'hui 10e du classement avec une seule victoire au compteur et 2 nuls quand même, soulignons-le. Mais du coup, même si on n'est qu'à 8 journées jouées finalement sur 26, disons que c'est déjà un match qui va compter pour le maintien.
Et dans quelle disposition? Parce qu'on sait qu'ils ont un peu souffert, ils ont eu le Covid, les malheureux Biérrois, ils ont eu du mal à se remettre en route. Là, ils reviennent de Angers avec un match nul. C'est une bonne nouvelle ou alors il y a de la déception chez eux parce que la victoire était vraiment à portée de main?
Oui, alors ils ne le prennent pas comme ça. Disons qu'ils le prennent comme une bonne nouvelle justement parce que ils ont réussi à revenir à 3 points pour égaliser à Angers au dernier moment. Donc c'est un petit peu un match nul qu'ils considèrent comme une victoire. Et aujourd'hui, ce dont a vraiment besoin Bière, c'est de se remettre la tête à l'endroit et grosso modo d'une victoire pour essayer d'accrocher une spirale positive. Parce que c'est vrai que cette préparation hachée, avec des grosses bâches, hein, on peut le dire, encaissées face à 4 équipes, il y a 4 équipes contre lesquelles Bière a encaissé plus de 30 points, ça fait mal au moral. Et donc cette équipe a besoin de se relancer, on sait qu'elle peut le faire, puisque la seule victoire qu'elle a engrangée cette saison pour l'instant, c'est face à Valence. C'était une très belle victoire. On a vu un groupe solidaire, on a vu un groupe capable de réagir aussi, parce qu'ils avaient débuté leur match en encaissant un 4-0, ils se sont réveillés, ça a été, c'est leur match référence de la saison. Donc on sait qu'ils peuvent le faire, et face au dernier du classement, ils ont tout intérêt à le faire pour ne pas tomber au contraire encore plus dans une spirale négative.
Et donnez-nous aussi quelques nouvelles du club rapidement, parce qu'on parle moins d'eux, visibilité oblige. Comment vont-ils dire, en mal?
Alors évidemment, le huis clos ne fait pas du bien, mais ceci dit, il limite les pots cassés, parce que d'une part, ils ont réussi à se réinventer un petit peu en allant diffuser leur match sur la chaîne NOAH, un match que vous pouvez retrouver aussi à partir de notre site internet ou de notre page Facebook sur... donc la République des Pyrénées, et donc diffusée en direct. Et ça, de façon assez surprenante, ça a réuni des dizaines de milliers de téléspectateurs, si on peut parler téléspectateurs pour Facebook. En tout cas, 60 000 lors de la diffusion du premier match. Là, le dernier match a été diffusé, 43 000 personnes, ont été regardées le match. Ce qui fait que finalement, Bière a réussi à préserver pas mal de partenariats, des partenaires comme ça, qui sont restés fidèles, que... la billetterie en elle-même ne souffre pas plus que ça, disons, du huis clos. Ceci dit, ça fait pas du bien quand même. Et le club a demandé à l'agglomération paloise un soutien financier.
D'accord. Donc, soutien financier, agglomération paloise. Il est très tentant, vous l'avez compris, Jean, que je me tourne vers vous pour aborder...
Je vois absolument pas de quoi vous parlez.
Non, c'est juste une inspiration comme ça, je vous rassure. Que je me tourne vers vous pour parler de l'Élan Béarnais. Donc l'Élan Béarnais qui, miracle, va jouer dimanche à 20h55 contre Monaco. Alors d'abord je pose le décor, si j'ai bien compris. Donc Monaco, ce qui se fait de mieux en France actuellement.
Exact.
Pour une équipe qui a perdu son meilleur joueur, Shannon Evans.
Oui, pas Monaco, elle est là,
Oui,
oui.
Pau a perdu son meilleur.
Et
Sur
perdu
deux.
aussi, et perdu aussi.
C'était mon troisième
D'accord,
point, ça. C'était
pardon,
mon
pardon,
troisième point.
pardon, pardon.
Madi Ndiaye, donc le pivot qui s'est fait une entorse.
Oui, qui s'est fait une entorse,
Donc il ne sera pas là.
qui sera pas là. Qui sera pas là dimanche et vraisemblablement un peu plus longtemps. On peut imaginer qu'il soit pas là tout le mois de décembre, le grand pivot sénégalais.
Carrément.
Ouais, carrément, ouais. Donc, ce qui laisse une raquette quand même relativement abîmée, hein, puisqu'il n'y a plus que Ousmane Dramé et Peter Cornelli pour jouer intérieur. Si on considère que Jérémy Leloup n'est pas un vrai poste 4, donc ça fait peu, sachant que bon, Nicolas De Jong, on le rappelle, est toujours blessé. Donc là, Hamadi Ndiaye sur le flanc. Face à Monaco, ça risque de faire un peu juste à l'intérieur et aussi un peu juste à l'extérieur.
Comment ils le prennent du coup, ces Palois, ce match, c'est un match pour s'y remettre, quel que soit le résultat finalement?
Ouais, ils étaient super contents d'avoir ce match, d'être les premiers à rejouer, parce qu'il n'y a qu'un match au week-end en JP Elite. Mais ça, c'était avant le départ de surprise de Shannon Evans pour la Turquie, qui date de la semaine dernière pile. Donc là, il y a le petit Bibins qui est arrivé, Justin Bibins qui est arrivé hier soir, qui a fait son premier entraînement ce matin. Donc effectivement, intégrer un meneur de jeu en 2 jours, en 48 heures, c'est vraiment pas facile. Donc là, Laurent Villa essaie de lui inculquer tous les systèmes, mais dimanche soir, déjà avec Evans, ça aurait été super chaud. Et là, sans Evans, avec Bibins qui débute, et sans Hamadi, Ndiaye, ben les Lions ils vont jouer à 7, 7-8. Et face à l'Armada de Monaco, c'est impossible d'imaginer une victoire béarnaise.
Justin Bibbins, parlez-nous un peu de lui, de son profil. Vous l'avez vu aujourd'hui au Palais. Vous allez nous le présenter demain, donc ce sera vendredi dans nos colonnes dans La République et l'Éclair. Quel type de joueur on peut espérer retrouver?
Bah déjà, ça fait plaisir de voir un joueur qu'on peut regarder d'en haut. Donc, obligé de baisser la tête pour le regarder droit dans les yeux. Puisque Justin Bibin, c'est un petit format, 1m70 maxi, 68 kilos. Alors, dans la veine un petit peu des David Alston qui jouait à Dijon, un peu plus grand qu'Alston, de John Robertson qui jouait à Chalon. Ce sont des petits meneurs très rapides, très énergiques, qui s'adaptent très bien à la proie, enfin à la JP Elite, pardon, en général. Là, il arrive du championnat polonais de Legia Varsovie. On peut pas dire qu'il soit pas en rythme, hein. Lui il a joué 14 matchs déjà cette année. Parce que Varsovie, apparemment le Covid, ils connaissent pas trop. Donc ils ont pu jouer un championnat normal, 14 matchs, 18 points par match, 7 passes décisives, 3 rebonds. Il allait être élu meilleur joueur du mois là, en Pologne. Donc c'est un joueur qui arrive quand même avec une confiance au taquet. Donc maintenant, voir s'il est capable de transposer ça dès dimanche face à Monaco, sachant qu'au Monaco, sa force principale, une de ses forces principales, c'est la pression défensive sur les meneurs adverses. Donc là, il va être servi. On va avoir d'entrée dans le bain chaud.
Test royal donc pour Justin Bibbins
Exact.
ce dimanche à 20h55 contre Monaco. Là aussi, c'est un match que vous retrouverez en live sur notre site internet. Dimanche, c'est chassé croisé, c'est un peu bison futé, la République des Pyrénées, parce qu'à 18h, autre match, un peu plus verdoyant celui-ci, au stade du Hameau, la section reçoit Castres. Du coup, Grégory, 5 défaites d'affilée, ça se tend toujours un peu plus, c'était déjà tendu, mais ça se tend toujours un peu plus. Est-ce qu'on peut parler maintenant de danger vraiment pour la section?
Ça commence à piquer, comme on dit dans le jargon. Surtout que c'est Castres désormais qui arrive, qui est un poursuivant de la section. Il commence à y en avoir de moins en moins dans ce top 14 pour une section qui glisse dangereusement. Castres qui a eu un début de saison vraiment perturbé par le Covid, qui était venu s'imposer cet été en amical au Hameau. Premier match sur le nouveau terrain. Une victoire arrachée dans les dernières secondes sur un contre, sur une transformation. Il va falloir que les Palois soient à la hauteur des enjeux.
Vous les sentez prêts? Parce que c'est une des questions qu'on a abordées dans notre dossier du jour. On se demandait justement s'il fallait avoir peur ou pas pour la sélection paloise. Vous les sentez vraiment conscients des petites flammèches qui commencent à leur mordiller les fesses?
Non, mais
De l'image, n'est-ce pas?
ça, je pense qu'ils en sont conscients quand même depuis le début de la saison, quand on leur parlait de cette. C'est une série à l'échelle paloise, on va dire, de victoires pour débuter le championnat, ce qui n'était jamais arrivé depuis que le club était remonté en top 14. Nicolas Godignon avait de suite appelé à l'humilité. À plusieurs reprises, ils ont tenu des discours très, très pragmatiques, demandé d'attendre, ils ont refusé de se projeter. C'est qu'ils étaient donc conscients que dans ce championnat vraiment plus perturbé par le Covid, il était difficile d'avoir des objectifs très, très clair d'entrée de saison. Mais maintenant, voilà, c'est le temps est passé, les enjeux sont posés, il va falloir vraiment réagir et confirmer enfin les promesses entrevues par séquence. C'est pour ça que c'est vraiment difficile de juger cette équipe qui est capable, bah, on l'a vu le dernier match, qui est peut-être la synthèse de ça, du meilleur comme du pire.
Vous avez dit ouais, promesse et par séquence, on va dire, c'est un euphémisme. Bon, j'ai regardé la première mi-temps essentiellement de Toulon le week-end dernier qui était assez effrayante. Je me dis qu'une équipe comme Castres, pénible au sol par exemple, c'est alerte rouge. Vous rejoignez aussi ce point-là?
Certes, après, si les Avants continuent dans leur dynamique du début de saison, si Antoine Astoy est en feu, si les combinaisons, comme ils ont été capables de les faire au Racing, un essai en première main face à Toulouse, 2 minutes de possession, 42 passes, ils ont vraiment montré qu'ils étaient capables. Maintenant, il va falloir rivaliser sur la durée, et on peut espérer que les avertissements reçus dans le jeu au sol étaient constructifs pour préparer ce défi castré, puisque effectivement les castrés sont pénibles.
Avec beaucoup de scies, hein. Comme disait un poète footballeur, je crois, avec des scies, on coupe du bois, on ne gagne pas des matchs. Celle-là, elle est casée dès l'épisode 2, j'en suis très content. Je reviens vers Anne. Il y a quelqu'un d'autre ce vendredi qui a une belle échéance qui s'approche. Là, je prends la direction de Haut-de-Gand pour parler d'une certaine Alexandra Lacrabère qui attaque l'Euro avec l'équipe de France féminine demain soir contre le Monténégro.
Oui, alors on va surtout prendre la direction du Danemark pour ça, puisque c'est ce pays
c'est
seul.
Que ce soit le Monténégro.
Non, c'est le Danemark qui accueille l'Euro féminin de handball cette fin d'année. Et effectivement, Alexandra Lacrabère, bien que blessée il y a 3 semaines en Coupe d'Europe avec son club de Fleury, eh bien, était sélectionnée pour disputer cet Euro. Les Françaises ont un titre à défendre. Et alors, Alexandra, nous l'avons interrogée récemment sur les enjeux de ce championnat d'Europe. Alors, la France a un titre à défendre, mais ce qui est surtout important cette saison, enfin cette année, c'est que les Françaises ne doivent pas se tromper d'objectif. C'est un petit peu ce qui leur est arrivé l'an dernier, à la même époque, débutait le championnat du monde. Les Françaises étaient championnes du monde en titre, mais ce qu'elles avaient en tête, c'était les JO 2020. Et en se concentrant trop sur les JO 2020, finalement, bah, elles ont un petit peu négligé ce mondial dans lequel elles ne sont jamais vraiment rentrées puisqu'elles ont été éliminées dès les phases de poules. Et donc cette année, ce qu'a souligné Alexandra Lacrabère, c'est qu'il ne fallait pas se tromper d'objectif. Déjà, on fait un résultat sur ce championnat d'Europe, pas forcément une médaille d'or, c'est pas forcément ce qu'elle vise, mais en tout cas un podium, en disant si on n'est pas capable d'aller chercher un podium sur un championnat d'Europe, on peut oublier les JO derrière.
Et à titre plus personnel pour Alexandra Lacrabère, est-ce qu'on peut considérer cet enchaînement Euro, Jeux Olympiques de Tokyo, comme la dernière ligne droite de sa carrière en bleu, ou est-ce qu'elle n'aborde pas la question sous cet angle?
Ça, je ne saurais pas le dire à sa place. Je ne vais pas prendre le risque de parler à la place d'Alexandra. Mais ceci dit, elle a re-signé à Fleury, ce qui fait que sa carrière handballistique en elle-même n'est pas terminée. Donc dire que ça s'arrêtera après les Jeux, pas forcément.
D'accord, très bien. Changement de terrain, à nouveau. Et là, on prend la direction de Clermont-Ferrand, de l'Auvergne. Il ne sera pas question ici de Valéry Giscard d'Estaing, mais vous l'aurez bien compris, de Ligue 2 et du prochain déplacement du Pau FC qui est sur le terrain du Clermont Foot 63. Ce samedi, Greg, vous étiez au Hameau mardi pour cette belle victoire contre Caen. Vous avez retrouvé le Pau FC hein, sur ce match.
Ah oui, puis le Pau FC s'est retrouvé. Alors malheureusement, s'est retrouvé à huis clos. Personne n'a pu assister à cet événement, une victoire contre Caen, un ex-club de Ligue 1 avec ses joueurs de Ligue 1, son entraîneur de Ligue 1 au phrasé légendaire Pascal Duprat. C'était vraiment une belle victoire, une réponse après les critiques légitimes de l'entraîneur Didier Tolo après le match contre Grenoble. Une belle victoire, un beau but, des belles individualités. Là aussi, les questions de promesses à confirmer.
Justement, vous les sentez. Bon, je vous ai déjà posé la même question la semaine dernière après leur il y avait la victoire de Niort qui était venue, qui était passée par là. Est-ce que c'était une équipe décomplexée qui enfin avait trouvé le rythme? Même question, mais 10 jours plus tard.
Alors on l'avait espéré décomplexée après la victoire à Châteauroux, qui avait suivi une victoire contre Niort, même s'il y avait une défaite entre-temps sur le plus petit des scores contre Le Havre. Le match contre Grenoble empli de suffisance et d'insuffisance, avait balayé un peu tous ses espoirs. Ils ont relevé la tête à Dunkerque, arraché le match nul à la dernière seconde et confirmé cette fois-ci contre Caen. Donc maintenant, on va dire qu'ils ont payé pour apprendre. S'ils retombent dans leur travers, là, il y aura des critiques légitimes et méritées qui ne devraient pas manquer à tomber de la part de l'entraîneur Didier Toulon.
D'accord. Cette semaine, il y a d'autres nouvelles aussi qui sont arrivées sur le POFC, extra-sportives. C'est cette décision de la DNCG, donc le gendarme financier, c'est l'appellation quasi officielle, de la Ligue, qui décrète un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Dites-nous en plus.
Alors effectivement, c'est tombé. Alors un peu à la grande surprise de Bernard Laporte-Frey, le président, puisque la nouvelle a été communiquée sur le site officiel de la Ligue avant que lui en soit informé. Il peut regretter un petit peu le manque d'élégance de la chose. Concrètement, dans la vie du POFC, ça ne va pas changer grand-chose, puisque cet encadrement interdit à Pau d'aller plus haut que la masse salariale prévisionnel déclaré en début de saison. Or, Pau, pour l'instant, est en dessous. Il n'y a pas de recrutement qui est prévu au Mercato. Il ne va pas y avoir de renégociation de contrat fabuleuse qui va intervenir maintenant. Donc, ça ne leur changera pas forcément la vie. Et la deuxième partie du jugement de la DNCG oblige le club à valider toutes les opérations au préalable en cas de Mercato. Mais Pau n'est pas parti pour recruter là non plus dans le prochain mercato, à moins de faire une fabuleuse vente sur un de ses joueurs et de vouloir en profiter pour renforcer son effectif. Mais on n'en est pas tout à fait là dans le contexte post-Covid et surtout de crise des droits télé liés à Mediapart, parce que le vrai problème est là aujourd'hui pour le football français et Pau évidemment concerné, même si Pau ne sera pas concerné à la même hauteur que d'autres clubs, puisque promu, puisque ayant tablé sur un classement assez bas, donc avec des droits télé assez bas, puisque les droits télé, il y a une part variable. Pau n'est pas le club le plus gêné par cette crise, même s'il est gêné évidemment comme tous les autres.
D'accord. Oui, donc Mediapro, Mediapart, c'est Louis de Plenel, Mediapro, c'est ceux qui ont du mal à payer à la fin du mois. Jean, prochaines échéances, parce qu'on a parlé de Monaco, mais peut-être y aura-t-il d'autres matchs pour l'élan parce qu'un rythme d'un match par mois, vous en conviendrez.
C'est pas mal, moi j'aime bien un match par mois, ça me laisse un peu le temps pour les préparer. Mais pour être plus sérieux, les joueurs, eux, ont besoin de jouer. Jérémy Leloup me le disait ce matin, ça va, là, les annoncer, là, de faire des entraînements et des matchs amicaux face à Boulazac, c'est bon, c'est stop. Ils aiment beaucoup Claude Bergeau, mais là ça suffit. Donc ils veulent passer aux choses sérieuses. Donc là, c'est Monaco. Ça va être dur et ensuite ils enchaînent par deux matchs a priori plus faciles sur le papier mais à l'extérieur, à savoir le samedi 12 à 20h30 à Orléans. Mm-hmm. Ce sera pas cadeau puisque Orléans c'est le genre de match à domicile qu'ils ont coché pour l'emporter. Et la semaine suivante, le 19 à Strasbourg, qui est quand même un gros budget, un gros effectif. C'est le club de Léo Cavalière, entre parenthèses. Donc voilà, donc au mois de décembre, à trois matchs compliqués. S'ils arrivent à en gagner un, je signe maintenant. Si on me dit une victoire pour décembre, on signe de suite, car ils seront favoris dans aucun des trois matchs.
Avec, je le rappelle, donc un effectif impacté. Hein.
Oui, impacté. Bon, on peut imaginer que le petit Bibins va vite prendre la température de l'équipe, mais à l'intérieur, ça va être dur. Si Ndiaye ne peut pas jouer, ça va être très compliqué. Dès dimanche soir, juste pour signaler à Monaco, c'est Mathias Lessort, international, qui a fracassé les Allemands à lui tout seul au Palais des Sports dimanche dernier. Une semaine après, il revient sur les lieux du crime. Je pense qu'il va faire un malin plaisir à martyriser le cercle. Laurent Villa est prêt à se faire manger dessous, à condition de tenir les extérieurs. Mais là, ça ne sera pas facile non plus.
Ça va, Laurent Villa, il supporte bien cette situation, parce que lui, il doit trouver des meneurs comme ça en
ouais,
séjour.
Il est plutôt, plutôt zen, plutôt philosophe, il prend ça avec le sourire. On l'a connu un peu plus chafouin dans des circonstances plus ou moins identiques l'an dernier. Là, il essaie de prendre le bon côté des choses. C'est clair que d'avoir trouvé un meneur en 4 jours avec de telles références, au moins de telles stats, c'est quand même, on va dire, sur le papier, une bonne pioche. Maintenant, c'est clair que les joueurs ont assez mal pris le départ de Shannon Evans. Ils auraient bien aimé le garder toute la saison, l'avoir avec eux toute l'année. Car il y avait au-delà des stats et de ce qu'apportait Evans, il y avait quand même toute une alchimie collective et la vie hors du terrain, tout ça se passait super bien avec Evans. Alors ça ne veut pas dire que ça ne se passera pas bien avec Bibbins, mais quelque part le jouet était un petit peu cassé la semaine dernière.
D'accord, très bien. Je referme tous ces volets sportifs pour celui que vous redoutez tous, pour ouvrir celui que vous redoutez tous, celui du prono, le fameux prono. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il y a autour de la table quelqu'un qui a fait un bon prono. Il y avait un match nul, il y avait un buteur. C'est Grégory Le Thor qui a pris un peu les choses en main, qui a pris des commandes sur ce début de podcast. J'excuse l'absence de notre spécialiste tennis de table, Christian Saint-Pé, qui nous écoute et qui ne pourra pas prendre part au vote. Et aussi... notre autre spécialiste rugby et petite enfance, Jérôme Carrère, qui nous écoute aussi, mais qui n'est pas autour de la table. Je vais commencer. Anne, c'est vous qui vous y collez. Bière, Sarrebourg. Score final, s'il vous plaît.
Moi, je vois bien Bière, effectivement, se réveiller, se rebeller, et à leur tour, se dévoiler un petit peu sur le jeu grand espace, qui est un des objectifs. Allez, on va miser sur un... 29, c'est un bon nombre. 21.
29, 21.
En faveur de bière.
C'est votre date d'anniversaire aujourd'hui. Greg, le Pau FC à Clermont.
Mon cher Vincent, ça sera encore un match nul.
Encore un match nul.
Et oui, un partout avec un but de Cheikh Sabali.
Ah, le lutin. Et enfin, le match peut-être le plus...
Oui, d'abord signaler que j'avais donné quand même deux victoires de la France la semaine dernière au Pôle des Sports. Il y a eu deux victoires. Je tiens quand même à rectifier les pronos. Quant à l'élan, plus 3 à la mi-temps. Et oui, plus 3 à la mi-temps. Mais malheureusement, moins 22 au final, malgré les 24 points de Justin Bibbins.
Donc combien, 3 points? Ça aussi, vous l'avez déjà ou pas?
6 sur 9. Malgré, il a réussi à se défaire des griffes de Dibost, réalisant 6 sur 9 à 3 points. Malheureusement, au fil des minutes, l'élan a craqué. Et s'est incliné de 22 points, j'ai dit, face à Monaco.
C'est ça. Voilà. Plus 3 à la mi-temps, moins 22 au final. Et pour terminer, ce ballon ovale. Section Castres, je reviens vers vous.
Ce sera une victoire aisément. 25-13, encore un essai de Elliot Roudil d'ailleurs.
Elliot Roudil?
Oui, bien sûr, évidemment.
Vous avez la mi-temps? Non,
non, moi je me concentre vraiment sur le score final.
D'accord, très bien. On abordera d'autres sujets, bien d'autres sujets, lors de notre prochain épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon week-end de sport et à très vite avec la République des Pyrénées et l'Éclair. Au revoir, ciao.